Bonjour et bienvenue dans la balado-diffusion du Carrefour de l'enseignement de l'apprentissage de l'UQAC. Un balado dans lequel nous discutons de pédagogie avec des professeurs, des chargés de cours et des acteurs de la pédagogie universitaire. Je m'appelle Éric Noël, conseiller pédagogique en technologie éducative et dans ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Hugo Collard, chargé de cours au département des sciences de l'éducation concernant l'utilisation de l'écriture d'articles professionnels en salle de classe. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau balado. Dans celui-ci, je reçois Hugo Collard. Bonjour Hugo.
Salut Éric.
Alors Hugo, je te laisse te présenter.
Ben écoute, que dire pour me présenter? Ben d'abord, peut-être mon parcours professionnel pour débuter. Ancien enseignant de sciences au secondaire, au Saguenay, mais peut-être plus intensément et depuis quelques années chargé de cours en didactique des sciences ici à l'Université du Québec. Je suis aussi superviseur de stage, j'occupe aussi certaines tâches de professionnel. Donc, c'est mon parcours professionnel. J'ai fait des études aussi, un doctorat en didactique des sciences. Donc, je roule ma bosse depuis quelques années autour de cette idée d'enseignement des sciences, notamment au niveau du secondaire.
Ça ressemble à quoi un cours avec toi?
Ben, d'abord, il faut comprendre un peu... qu'est-ce que je fais? Donc, quand je parle de didactique des sciences, en fait, c'est une... On aborde un peu toute la question et les enjeux de l'enseignement des sciences. Donc, moi, je m'adresse à une clientèle qui va elle-même éventuellement enseigner ces notions-là de sciences et de technologies, soit au primaire ou au secondaire. Donc, moi, c'est un peu dans ce carré de sable-là que je travaille. Puis... un cours de didactique des sciences, ça se veut beaucoup axé sur des liens théorie-pratique. Donc, moi, c'est un peu la ligne directrice que j'utilise pour ça. Donc, l'objet avec lequel je travaille, qui est la science-technologie, nous donne cette chance-là, donc d'avoir une portée très pratique. Donc, c'est assez facile de faire des liens concrets entre ce qu'on aborde de manière un peu plus théorique puis ce qu'on enseigne. Donc, pour donner des exemples, beaucoup de laboratoires de formation pratique, beaucoup d'ateliers à l'extérieur. Donc, on aborde un peu les différentes possibilités pour enseigner ces contenus-là au secondaire, mais on le fait en l'essayant puis en liant ça aussi des aspects un peu plus théoriques pour analyser notre pratique.
Tu as changé un peu ta façon de faire depuis que tu as commencé à enseigner. Quelle a été la problématique ou l'interrogation que tu as eue pour faire ce changement-là?
Bien, c'est certain qu'il y a eu plusieurs constats, donc plusieurs petites choses qui ont apparu à travers les années. Donc, au départ, j'y allais beaucoup dans une proposition d'enseignement qui était assez dense, donc avec beaucoup de contenu abordé. Puis, au fil du temps, je me suis beaucoup interrogé à savoir, finalement, avec quoi les étudiants repartaient. Donc, de toutes ces innombrables choses-là et connaissances-là et pratiques-là que je leur permettait de travailler, mais concrètement, là, ils repartaient avec quoi? Donc, ce questionnement-là m'a amené un peu à revoir mes pratiques et à créer peut-être des situations ou des activités de formation qui sont très significatives puis qui vont les marquer, j'espère, en tout cas, qui vont les remarquer pour qu'ils puissent repartir en carrière avec ces connaissances-là plutôt que ça s'éteigne en dedans de la formation. Faut aussi savoir que on prépare de futurs enseignants. Puis cette communauté-là, elle a aussi des caractéristiques dont on doit tenir compte. Par exemple, les enseignants dans la communauté enseignante, il y a peu d'exercices de consultation ou de diffusion des connaissances issues de la recherche. Donc, ils travaillent peu avec ce qui est produit finalement au niveau de l'université. Puis il y avait cette idée de vouloir démocratiser un peu de la littérature professionnelle qui est produite puis qui pourrait être utilisée par la communauté en milieu scolaire. Donc, cette idée-là de faire une préparation un peu différente pour les étudiants à l'université afin qu'ils arrivent en carrière avec un bagage aussi différent. Donc, ça, c'était dans cette optique-là. Dernier constat, la qualité des travaux aussi qui étaient produits à l'université. Donc, j'ai remarqué quand même à travers les années que, comme c'est un exercice qui est ponctuel, un travail universitaire, donc on le fait, puis une fois qu'il est fait, ben ça meurt un peu dans les dossiers du prof à qui on l'a remis. C'est pas nécessairement tous les étudiants qui le faisaient, disons, au meilleur de leur capacité, sachant aussi cette réalité-là. Donc, il y avait une prise de conscience à cet égard-là que les étudiants, peut-être pour livrer le meilleur d'eux-mêmes, il fallait aussi leur proposer des situations différentes, puis qui pouvaient les amener à aller chercher aussi au meilleur de leur capacité.
Puis qu'est-ce que tu as fait pour répondre à cette problématique-là?
Une des activités, puis celle dont je veux vous parler, qui a été développée il y a quelques années, d'abord par moi, puis ensuite qui a été travaillée en collaboration avec d'autres collègues là, au département des sciences d'éducation. Je peux les nommer, donc mes collègues Marie-Pierre Baron et Elisabeth Boilly. Donc, c'est un projet de rédaction d'articles professionnels à l'intérieur d'un cours de la formation initiale à l'enseignement. Donc ça, c'est un peu l'idée générale du projet. Donc évidemment, ça s'est traduit en plusieurs étapes. Mais essentiellement, c'était d'amener nos étudiants universitaires vraiment à prendre en charge un devis de publication dans une revue professionnelle, puis d'aligner à ça des intentions pédagogiques de formation directement rattachées au cours, mais dont le livrable final, finalement le produit final, c'était la publication de l'article professionnel dans une revue d'association professionnelle. Donc, c'est un peu cette activité-là que j'ai développée.
Super intéressant, Hugo. Ce que j'entends, c'est que vous avez misé sur l'exploitation des situations authentiques, c'est bien ça?
Oui, exactement. Les situations authentiques, mais peut-être qu'on a un peu jazzé différemment. Parce que normalement, une situation authentique, c'est défini comme une tâche complexe qui s'apparente à ce qu'un professionnel pourrait être amené à accomplir dans sa vie professionnelle. Mais on s'entend que, par exemple, rédiger un article professionnel, c'est pas tant une pratique apparentée à ce qu'un professionnel de l'enseignement fait. Mais la manière dont on a aussi vu la chose, c'est l'enjeu, c'est pas tant de développer des pratiques usuelles, mais aussi de développer des pratiques qu'on souhaiterait voir apparaître. Donc, c'est un peu le mandat de formation qu'on peut avoir à l'université aussi, de faire adopter des pratiques nouvelles avec lesquelles on voudrait qu'ils repartent en carrière.
Super intéressant. Maintenant, peux-tu me donner un peu plus les étapes ou les défis auxquels tu as dû faire face?
Oui, on va commencer par la démarche un peu plus en étapes. Donc, on pourrait peut-être, pour faciliter la compréhension de tout ça, le décortiquer en trois étapes, donc un avant, un pendant, puis un après l'activité. Donc, dans l'espèce de phase avant, là, qui est une phase préparatoire, il fallait d'une certaine manière scénariser la chose. Donc, d'abord, formuler nos intentions pédagogiques. Puis là, moi, je les avais formulées beaucoup avec le développement de compétences professionnelles en enseignement, mais aussi certaines notions d'utilisation de connaissances issues de la recherche. Donc, j'avais un peu établi les cadres sur lesquels je voulais que les étudiants passent pour cette publication-là. Puis, une fois que ça a été produit, bien, ça a été d'aller vers des revues ou des endroits potentiels où la publication pourrait atterrir, puis de faire une négociation avec ces revues-là pour soit dédier un espace de publication ou de définir des modalités de publication à l'intérieur de leur revue. Donc, moi, ça a été en fait avec la revue Vive le primaire, donc une rubrique à l'intérieur de Vive le primaire, une chronique en fait de Vive le primaire qui a été animée pendant plusieurs années grâce à ces publications d'étudiants-là. Donc, ça, c'était dans la phase préparatoire, donc c'est quand même important de générer ces ententes-là avant d'aller vers le processus de rédaction. Donc, dans un processus, dans la phase interactive, donc là où j'ai un peu plus accompagné les étudiants, ça a été beaucoup de l'itération, donc des va-et-vient entre l'écriture, des rétroactions de ma part pour qu'ils puissent bonifier leur écriture et finalement quelques boucles comme ça là, où on passe soit de la mise en en texte, les commentaires, l'évaluation, et on fait un va-et-vient là, entre tout ça. Puis la dernière phase, ben, c'est non la moindre, là, c'est vraiment d'assurer le suivi de la publication auprès des revues. Puis la communauté universitaire est assez familière avec ces notions-là, mais de vivre un premier processus jusqu'au bout, puis d'accueillir aussi les commentaires des comités de rédaction des revues professionnelles, d'assurer aussi de la cohérence avec tout ça, c'était des tâches intéressantes à faire, puis qui est arrivé un peu plus après, finalement, le déroulement de l'activité là, dans une phase un peu a posteriori. Dans les défis, il y a évidemment d'accompagner les élèves dans un processus d'écriture où là, on veut idéalement que le registre d'écriture lève d'un cran, de leur permettre là, de faire migrer leur qualité de travail jusqu'à un niveau, on va dire, prêt à la publication. Donc ça, c'est quand même un défi important parce que ben ils n'ont pas d'expérience antérieure forcément, puis ça nécessite quand même des pratiques d'accompagnement qui sont différentes chez le formateur universitaire. Donc, tantôt, j'ai parlé de la rétroaction, de l'itération. C'est pas nécessairement quelque chose qui est usuel en formation initiale au premier cycle à l'université. Donc, ça, c'était peut-être le défi le plus important. Puis, le deuxième défi, bien, c'était aussi dans la durée de la chose. Donc, il y a certains articles qui ont été publiés quelques mois là, après la fin officielle du cours. Donc, il y a quand même cette idée de devoir assurer une coordination d'activité au-delà des frontières normales d'un cours pour que ça puisse se rendre jusqu'à l'ultime moment de la publication dans la revue.
J'aimerais connaître la réaction des étudiants, peut-être, qui a probablement changé entre la présentation du projet, la réalisation du projet, mais j'aimerais que tu me peut-être faire le tour un peu de la réaction des étudiants face à ce projet-là.
C'est une bonne question. Au départ, je pense que le projet, je sentais un a priori très positif de leur part de vivre cette expérience-là. Donc, surtout de savoir qu'éventuellement, ça allait être publié dans une revue professionnelle consultée par des gens en milieu scolaire, donc un public élargi. Donc, il y avait cet a priori très positif-là à l'égard du projet qui a, à mon avis, été favorable à leur engagement puis à la motivation au sein du projet. Par contre, je dirais, challenger sur la qualité de leur écrit, de devoir y retourner parfois plusieurs fois pour améliorer leur production. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile. Donc, ça prend une certaine humilité pour le faire. Puis, j'ai senti par moments qu'il y avait des étudiants qui trouvaient ça plus difficile d'avoir à reprendre, à améliorer, à bonifier leur écrit. Donc, il y a eu quand même quelques tensions, je dirais ça, avec des équipes. Puis, je pense que c'était des tensions qui étaient normales, mais qui ont appris que ça l'a... En tout cas, j'espère qu'ils ont appris que ça leur a permis de produire quelque chose de meilleure qualité au final. Ouais. Puis, peut-être au niveau de l'élément de surprise chez les étudiants, en ce qui me concerne, c'était vraiment la fierté très manifeste qu'ils ont eu une fois le processus terminé. Je sais, par exemple, que j'ai des étudiants qui n'étaient pas du tout intéressés à la littérature professionnelle, ne la consultaient pas. À la fin de l'exercice, se sont abonnés à ces revues professionnelles-là. Ont même offert, en fait, des copies de l'article professionnel qu'ils ont rédigé à leur famille. T'sais, donc, c'est quelque chose. Je suis pas sûr qu'on offre un travail universitaire à nos familles à Noël, mais ça, tu vois, c'était suffisamment significatif à leurs yeux pour qu'ils le fassent. Donc, pour moi, ça a été un bel élément de surprise, puis ça m'a un peu conforté dans ma perspective là, d'activité.
Tu l'as fait avec plusieurs cohortes. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as dû t'ajuster immédiatement dès la première cohorte vers la deuxième cohorte dans l'établissement de ce projet-là?
Oui, il y a quelque chose à bien y penser entre le moment 1 puis les éditions là, subséquentes. Au départ, j'avais un peu fait mon devis de travail avec une espèce de cahier de charge où j'établis certaines consignes de travail. Mais lorsque j'ai eu accès finalement à la première version des articles, c'était très, très, très hétérogène. Puis, lorsqu'on va vers une publication dans une revue professionnelle, il faut qu'il y ait une certaine homogénéité des formats. Donc, ça nécessitait de ma part un peu plus de recadrage. Et lorsque je l'ai revécu par la suite, je demandais aux étudiants de faire un plan de rédaction, donc d'inscrire un peu les informations qu'ils voulaient présenter, soit en introduction, en développement, en conclusion, donc de structurer beaucoup plus l'écrit avant de faire le passage à la mise en texte là, formelle. Donc, il y en a plusieurs qui l'ont fait de manière schématique, donc l'agencement des idées à l'intérieur du texte. Quelle idée on doit mettre en relation? Quel lien on doit faire? Donc, cette préparation-là à l'écrit qui n'avait pas nécessairement été anticipée initialement est devenue très importante finalement dans les éditions subséquentes. J'ai trouvé que ça permettait d'obtenir un meilleur résultat dès le départ, là, finalement.
Si le Hugo de maintenant pouvait s'adresser au Hugo du passé, est-ce qu'il y aurait un conseil qui se donnerait à lui-même?
Oui, certainement que je me donnerais quelques conseils, mais je l'ai un peu évoqué en introduction, mais c'est quelque chose que l'expérience m'aura apprise. En formation, on est mieux de privilégier l'expérience d'un point de vue qualitatif que d'un point de vue quantitatif. Donc, privilégier à la qualité de nos expériences de formation, nos activités de formation, que sur la quantité de choses à voir, finalement, avec nos étudiants. Parce que souvent, on se donne bonne conscience qu'ils aient vu telle ou telle notion, mais si l'expérience qu'on attache à ça n'est pas suffisamment significative, bien, au final, je ne pense pas que les étudiants vont repartir avec une idée très précise de qu'est-ce qu'on voulait leur communiquer, l'importance relative que ça peut avoir au niveau de leur pratique. La possibilité qu'ils en fassent un élément de transfert pour leur pratique est relativement faible. Alors que quand on travaille sur l'expérience qui est signifiante, qui est engageante, qui est motivante, je pense qu'on met les chances de notre bord pour que ce transfert-là se fasse éventuellement dans leur pratique. Je pense que le Hugo qui est rentré formateur universitaire devrait davantage faire confiance à ce leitmotiv-là, à ce mantra-là.
Tu as un collègue, Hugo, qui regarde ce que tu fais en classe, puis écoute, il est tenté par l'aventure. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais déjà lui donner s'il voulait aller dans cette voie-là?
Certainement. D'abord, je pense que l'activité en tant que telle a un haut potentiel de transférabilité parce que la plupart des programmes à vocation professionnalisante ont ces mêmes enjeux-là, ont aussi des revues professionnelles qui peuvent desservir ou avec lesquelles ils peuvent se mailler. Il y a des organismes de transfert des connaissances. Donc, d'abord, le contexte professionnel m'apparaît transférable là, d'une situation à l'autre. Puis, pour le reste, je pense que les étapes franchies, les modalités d'activité de formation sont tout à fait adaptables à d'autres réalités. On l'a d'ailleurs fait, donc avec les collègues, justement, moi, je travaille plus au baccalauréat en enseignement secondaire, mais mes collègues qui l'ont fait, elles étaient en orthopédagogie, donc c'est pas tout à fait des même si c'est pas homogène là à l'intérieur de la communauté des professionnels de l'enseignement, donc ça s'est fait en interdisciplinarité et ça s'est très bien vécu par la suite. Donc si les collègues souhaitent aller vers ça, je dirais faites-vous confiance. Les revues aussi ont beaucoup de besoins. Donc, ils ont un accueil très positif lorsqu'on leur soumet le projet. Donc, j'aurais le goût de les lancer sur, euh, cet espoir-là que ça va bien se dérouler, puis que les retombées seront à la clé, les étudiants vont embarquer aussi. Donc, je pense, j'aimerais les rassurer, ces collègues-là, que ça sera un chemin positif pour eux autres aussi. Dernier élément de conseil, peut-être, pour un collègue, ne pas minimiser la réflexion qu'on doit avoir en préparation de l'activité, parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, c'est un projet de publication, mais c'est d'abord une activité de formation qui doit répondre à des intentions pédagogiques, à des objectifs d'apprentissage clairs. Donc, si ce plan de match-là, il est flou, qu'on n'a pas bien identifié ce que les étudiants doivent apprendre à travers cette activité-là, en considérant un peu toute la complexité que ça peut amener de publier dans une revue, on peut en perdre de vue l'objectif là, au final. Donc, il faut que notre objectif il soit très clair, bien formulé dès le départ pour que on arrive à destination au final. Donc, ça, c'est une précaution que j'aurais aussi envie de lancer aux collègues qui voudraient s'initier dans cette activité-là.
Alors, je te remercie énormément, Hugo, de t'être prêté à l'exercice.
Bien, ça fait un grand plaisir, mon cher Éric.
Alors, à tous, on vous souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine.
Au revoir.
Vous venez d'écouter le balado du Carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de l'UQAC. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Pour tout commentaire, vous pouvez nous écrire à carrefour@ucac.ca. À la prochaine!